16h31, vous êtes à Boulevard 102.1. On le sait, la circulation est difficile depuis le début de l'heure de pointe. Ben, à tout ce qu'on vous a signalé s'ajoute une violente collision qui est survenue, quoi, dans les dernières minutes, ouais. Véro?
C'est le service de police de la Ville de Québec qui nous signale qu'il y a justement eu un accident automobiliste versus motocycliste. C'est sur l'avenue Notre-Dame, coin route Jean-Gauvin. Un motocycliste d'environ 35 ans qui a été transporté dans un centre hospitalier où on craint pour sa vie. L'intersection actuellement est bloquée à la circulation dans toutes les directions, donc Notre-Dame et route Jean-Gauvin.
À ça s'ajoute Capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, où c'est super difficile de circuler en ce moment. Direction Ouest, c'est entre Seigneurial dans le coin de Beauport et Laurentienne que ça se passe. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, entre Laurier et la Capitale, il y a des bons ralentissements. Charest Est, c'est surtout entre Duplessis et Robert Bourassa que ça se passe. Si vous êtes sur Henri IV Sud, à partir de Charest, il y a de la congestion jusqu'à l'entrée du pont, pareil pour Duplessis Sud. Puis la 20, direction Ouest, entre la route du président Kennedy et Taniata, là, c'est toujours super difficile, quoi que ce soit. 88-971-1021.
Ouais, ben Véro, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour le box-office estival, mais les gens vont voir essentiellement trois films cet été.
Ah oui?
Oui, il y a...
Inside Out 2.
Le prochain Deadpool, ouais. Et le prochain Beetlejuice. Ça se sépare vraiment en trois.
C'est
là.
Impressionnant. Ça. Je vais vous faire d'autres suggestions demain, vous allez voir.
Fait que c'est pour ça qu'ils en font plus des films neufs. C'est pour ça qu'ils font plus gang des suites.
c'est tellement les suites qui vont aller chercher le plus d'argent au box-office. On dirait qu'on veut des valeurs sûres, on veut du confort.
Exact.
Puis Deadpool, d'un autre côté, c'est Deadpool.
Ben oui, ben oui. Hey, parlant de confort, c'est toujours agréable de retrouver une des chroniqueuses très appréciées de Gravel dans le retour, Caroline Gagnon, qui est psychiatre, qui est avec nous. Salut, Caro.
Hey, salut. Bravo pour vos beaux chiffres.
Merci beaucoup.
Vraiment, bravo pour votre programme.
Puis t'as de l'écho quand tu viens jaser avec nous autres,
oui.
Au point où, dans quelques minutes, on va présenter une conversation podcast qu'on a eue avec quelqu'un qui a été victime de harcèlement pendant plusieurs années. Puis, elle a contacté suite à une conversation qu'on a eue avec toi en ondes sur Baby Reindeer.
Ah, c'est vrai?
Ouais. Fait que ça rebondit. Ça amène du monde.
Wow.
Ça amène des conversations. Ça amène des témoignages. C'est toujours le fun. T'as eu une super bonne idée aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire que on ouvre carrément les opportunités. Si vous avez des questions à poser sur la job de psy, tout ce que vous voulez savoir et même plus, c'est le temps de les poser. D'ailleurs, on va les prendre à la volée, hein, 418-971-1021. On en a déjà pas mal. Puis on va même commencer par la base. Moi, le premier, je ne sais pas la différence entre les deux, même si Audrey me l'a déjà expliqué 4 ou 5 fois. La différence entre psychologue et psychiatre, c'est quoi?
Le psychiatre a été formé en médecine. Il y a une formation de médecin avant et il se spécialise en psychiatrie ensuite. Donc, quand on rencontre le patient, c'est parce qu'il y a une maladie. Il y a un état de maladie, entre guillemets.
Mm-hmm.
Le psychologue va rencontrer quelqu'un qui a des symptômes, qui se questionne, qui a une crise existentielle. Le psychologue a étudié la psychologie à fond, d'une autre façon que le psychiatre en spécialité. Donc, on se complète vraiment. Mais dans le travail, si tu as des questionnements, tu n'es pas dysfonctionnel, mais tu as des questionnements, tu vas aller voir un psychologue.
Puis s'il trouve que tu es malade, il va te référer un psychiatre?
À ton médecin de famille.
Ah, OK.
Ton médecin de famille va distinguer est-ce que je peux traiter comme médecin de famille la dépression, par exemple, ou elle est vraiment sévère et résistante, je vais voir avec l'opinion d'un psychiatre. Donc, c'est un peu ça. Psychiatre égale médecin sous-jacent et psychologue égale le monde, tout l'univers de la psychologie avec le patient.
Puis si on rajoute les travailleurs sociaux là-dedans, parce que souvent maintenant, on est référé, je ne sais pas si c'est parce qu'on manque en psychiatrie ou en psychologie, le travailleur social, il se place où dans tout ça?
Le travailleur social peut faire de la psychothérapie, il peut aider dans les relations, dans la gestion des rôles sociaux. Ça veut dire, si t'es maman monoparentale, t'as perdu ton emploi, il peut t'aider à avoir des ressources par rapport à tout ça, mais aussi faire de la thérapie avec toi. Si là, le titre de psychothérapeute, c'est pas tous les travailleurs sociaux qui l'ont. L'ergothérapeute peut t'aider à faire de l'adaptation dans ton environnement aussi. Donc, tu vois, il y en a plein. L'éducateur aussi pourrait t'aider si t'as un TDAH, t'es adulte, puis t'as besoin de soutien.
Okay.
Ça pourrait être un éducateur.
On m'avait déjà dit que le psychologue t'aidait à trouver le pourquoi du pourquoi dans certains de tes comportements, tes réactions, et que le travailleur social, lui, était plus dans le concret des outils pour régler un problème actuel.
Exactement.
Est-ce que c'est une bonne façon
c'est
de
C'est vraiment
de
une bonne façon. Puis le travailleur social, c'est dans les actions, les ressources. Qu'est-ce qu'il y a dans mon milieu qui pourrait m'aider? Quelle opportunité j'ai? Un organisme qui peut m'aider?
Mm-hmm.
Bon, comme vous savez, j'ai maman d'un enfant autiste. Maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde m'en parle, d'ailleurs. C'est merveilleux. Donc, qu'est-ce qui existe? Je pourrais aller voir un travailleur social. Si c'est ma situation, c'est j'ai nouvellement un diagnostic chez mon enfant, j'ai besoin de ressources Dans mon milieu, c'est quoi, donc, à Québec, en Haute-Ville, c'est quoi les ressources qu'il y a pour ça? Bien là, la travailleuse sociale va m'aider avec ça.
Bon, Caro, on va se le dire, cette question-là, c'était rien que pour se réchauffer.
Okay,
là, on va poser les vraies
questions.
Il y a une théorie qui circule, qui est quand même pas mal répandue. Les psys, c'est tout du monde qui ont des problèmes, puis ils se lancent là-dedans pour essayer de les régler.
On entend ça souvent. Puis je vais dire quelque chose, les psys sont des êtres humains. Par définition, un être humain, est-ce que c'est normal, entre guillemets? Bon. Alors, c'est quoi la normalité? Donc, les gens en psy, c'est sûr qu'ils ont un intérêt dans la psy. Soit ils ont un intérêt intellectuel ou personnel. Ça peut être le mélange des deux. Ça se peut que tu aies eu une vie super correcte, adéquate, mais tu t'intéresses au cerveau puis au développement humain.
Oui.
Mais ça se pourrait que tu aies une grosse blessure puis tu as besoin... Ça se peut aussi. Fait que je veux pas réfuter l'affaire puis dire non, on est tous... Non, on a tous nos blessures, on les porte.
Mais quand un psy... a une blessure, est-ce qu'il va voir un autre psy? C'est comme la question du barbier là,
ouais,
à l'infini. Là.
Oui, ouais. Ben, le psy... ben moi, tu sais que dans mon travail, il y a des médecins et des psychiatres dans mes patients.
Oui.
Donc, c'est des psys qui traitent, ou des psychologues. J'ai des psychologues aussi. Donc, ils traitent des gens depuis des années, un peu d'épuisement, besoin de se réaligner, besoin d'un psychiatre parce qu'il y a une maladie à traiter. Puis là, on regarde ça ensemble.
C'est-tu plus dur de traiter des psys, étant donné qu'ils connaissent les méthodes, puis comment ça marche, puis comment poser les questions?
C'est les pires patients. Je vous aime, là, si vous m'écoutez, mes patients. Mais c'est les pires patients parce que,
justement... Ils sont durs à aller chercher, j'imagine.
Exemple, je fais un reflet, ils vont dire « Ouais, merci du reflet ».
Je vois votre connaissez ces techniques, ouais.
Je vois votre jeu. OK, parfait. C'est mon jeu, oui, c'est ça mon travail. Puis, à un moment donné, on arrive à... Mais c'est plus long d'arriver là, à l'émotion.
Est-ce qu'un psy s'auto-diagnostique?
Bien sûr.
Ah oh, ouais.
Si vous saviez mes diagnostics.
Est-ce qu'ils sont justes ou c'est comme...
Ils sont pas justes.
Ils
sont
Google,
pas justes. Okay, ouais. Une journée que je suis fatiguée puis que je me dis, mon Dieu, c'est quoi que j'ai? Je suis plus anxieuse que d'habitude, exemple. Mon Dieu, je suis rentrée avec un trouble anxieux généralisé. Non, j'étais fatiguée. Donc, il y a comme quelque chose.
Mais
les médecins aussi sont comme ça. Les médecins, ils ont mal au bras, ils vont aller se faire une radiographie, ils ne sont pas sûrs. Il y en a qui sont plus hypochondriaques en médecine. Donc, dans la psy aussi, quelqu'un peut être hypochondriaque côté psy.
OK.
Il y a un texto qui vient d'entrer de Ben qui dit « Est-ce que les psys cherchent toujours des bibites dans leurs entourages? » Tu sais, des formations professionnelles.
Ben moi, on me taquine avec ça. Tu sais, tu vas nous analyser, tu vas trouver des choses. Pas vraiment. M'intéresse pas. Moi, je ne suis pas dans mon bureau, là. J'ai un verre de vin, je suis avec du monde, je m'amuse, je veux dire. Pense pas à ça. Mais on cherche pas les bibites, mais quand ils apparaissent...
Un trouble narcissique dans ta face, tu vas
le
juger.
Vois.
Là.
Je le vois.
Il y a jamais une ado dans ta famille qui t'a dit « Ah, arrête de m'analyser! »
Non, mais...
T'es pas m'absouille!
Un de mes beaux-fils m'a déjà dit... J'avais dit « Comment tu te sens? » Il m'avait dit « Amener les émotions, ça va être beau. »
Ah, c'est drôle.
Ça, quand tu te fais dire que tu demandes trop comment tu te sens à tes enfants, tu sais, bon, c'est un défaut. Ça devient un défaut pour des. Il faudrait demander à mes enfants qui viennent, tu sais, témoigner de ça. Mais combien de fois j'ai fait ça, tu sais, puis ils me répondaient tout le temps, je me sens bien, je me sens triste, mais à un moment donné, ça va être beau, les émotions. Là, j'ai compris, cette journée-là, on va pas là.
Hey, on jasait avec le collègue Jeff Fortin ce midi, justement. On essayait de trouver une couple de questions, puis il a amené un point que je trouvais bon. C'est. Il a lancé la question, il dit quand on voit un psy, est-ce qu'on le voit pour la vie, puis en sous-question, quand est-ce qu'on arrête de voir un psy dans le processus?
On le voit le temps de la maladie aiguë. Mais quand on commence à refonctionner et à aller bien, il ne faut pas non plus devenir dépendant de notre psy.
Mais si qui donne le signal?
C'est ma responsabilité comme médecin psychiatre.
Ah oui? OK.
C'est ma responsabilité de dire, bien là, c'est pour aujourd'hui, c'est notre dernière séance ou il reste 3 sessions. Puis là, des fois, les patients ne veulent pas que ça termine. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais dire, il nous reste 3 sessions, on réévalue si ça va bien ou pas,
mais
parce que souvent, ils ont peur de quitter.
Y a-tu l'inverse aussi, genre l'argent rentre, tout est beau, mais si tu viens me revoir à toutes les semaines, moi, je dirais pas un mot, là.
Faudrait pas que ça soit ça.
OK.
Faudrait pas que ça soit ça, la base.
Parce qu'il y a des gens qui ont déjà eu ce feeling-là, là. C'est ce que j'ai remarqué là, au gré des conversations.
Je vais vous dire une blague que j'entends souvent. C'est avec mon argent que j'ai donné à mon psy, il peut se construire un chalet.
Ça ressemble
après
à ça,
10 ans de psychothérapie. moi, je suis affiliée à la RAMQ, donc je suis pas dans la facturation.
OK.
Donc, moi, c'est la carte soleil, ça existe comme pas, cette transaction-là. Chez les psychologues, ça existe, donc, de dire, je donne 120, 130, 140, peu importe, là, par semaine, puis à un moment donné, ils font de l'argent avec moi, là, comme tu dis. Donc, soyons vigilants, mais habituellement, c'est la responsabilité du psychiatre ou du psychologue de dire, on est rendu, on a fait un bon bout de chemin, là, on est rendu à l'étape de voler de nos propres ailes. Okay. Comme j'ai dit à mes enfants un jour, t'es assez grand pour partir en appartement et on a cette conversation-là ensemble parce que t'es rendu là.
OK.
Comment tu choisis bien ton psy? Parce que j'ai souvent entendu, il faut que tu le magasines.
Est-ce que t'as encore le luxe de le choisir?
Oui, il y a cette question-là en sous-question.
On n'a pas le luxe tant que ça. Mais quand
mettons
même.
Que,
mettons qu'on a le luxe.
Mettons qu'on l'a.
OK, je vais vous dire quelque chose de drôle. C'est comme une date. Choisir son psy. faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait une affinité. Je ne parle pas d'affinité de séduction.
Ouais, y a-t-il un Pissender que tu peux comme...
Hey, on se part ça aujourd'hui. Faut que... Tu sais, j'ai déjà des gens... C'est triste quand quelqu'un me dit « J'ai été suivi 2 ans en psy, mais j'ai jamais senti que mon psy puis moi, ça passait. » Donc, moi, pour moi, c'est du travail perdu. C'est des années perdues. Donc, moi, la première session, après la première session, je dis au patient, vous n'êtes pas obligé de me le dire maintenant. Dites-moi, si je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez l'annuler, vous pouvez, puis on ne revient plus, là, c'est pas grave.
Mais c'est triste parce qu'il y a des gens qui attendent tellement longtemps avant de consulter qu'ils se disent, OK, c'est la chance voilà. que j'ai et j'en aurai
et
pas
là, c'est
d'autres.
C'est ça qu'il y a dans le système qui est plate, c'est que tu peux être matché à un psychiatre ou un psychologue qui n'est pas vraiment ton. Tu sais, tu te sens pas, la vibration n'est pas là, mais là, tu te dis, bien, il faut bien que j'en ai un. Je vais le garder. Moi, je trouve ça triste, là. Mais bon, dans le meilleur des mondes, ça serait, on sent que humainement, au-delà du titre, humainement, tu sais, comme moi, je viens ici, pourquoi je viens ici, vous pensez? C'est parce que j'aime ça être avec vous autres comme personne. Comprenez-vous? Ouais. C'est pas parce que...
Oui, puis au-delà de la profession, il y a des
c'est
gens...
C'est la relation que je cherche, là.
Mais il y a des gens que t'es pas confortable de parler avec exactement. Eux, point, professionnel
ou
pas.
Exactement. Tu sais, tu sens pas la connexion, tu veux pas te livrer. Moi, si je sens pas ça, c'est difficile de travailler des choses en psychothérapie.
Ouais.
Donc, le meilleur psy, ça serait celui où vous vous sentez super bien pour parler sexualité, intimité, tu sais, toutes ces affaires-là qu'on est gêné de parler. On parle pas de ça à tout le monde, mais on serait à l'aise d'en parler, on serait bien dans la relation.
Il y a un Twitch qui est sorti qui demande « Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui avait clairement besoin d'aide puis tu as décidé de l'aborder pour l'aider directement sur place? »
Quelqu'un dans ma vie personnelle, par exemple?
Quelqu'un que tu aurais croisé, que tu aurais vu, ou oui, dans ta vie personnelle, peu importe.
Oui, on m'appelle souvent, moi, dans la semaine, pour des gens de toutes sortes, là, des amis, des connaissances, des enfants, parce que je suis pédopsychiatre aussi. Donc, souvent, je vais avoir un appel, puis ça dure 5 minutes. Idéation suicidaire, urgence psy, OK. On discute un peu du cas, puis je vais référer rapidement aux bons endroits. Fait que je vais rester toujours vigilante à ça. Parce que moi, je me dis, si je suis psychiatre, puis je peux aider des gens dans mon bureau, là, je viens ici, j'essaie d'aider d'autres personnes ici en faisant de la radio, mais si je peux aider aussi des gens dans mon entourage qui ont besoin juste de savoir quelles ressources, moi, je vais le faire comme dans ma vie, c'est comme ça que je vois ça. Est-ce que c'est tout le monde qui fait ça en psy? Je ne sais pas. T'sais, c'est comme le garagiste, change-tu les pneus de tout le monde, de sa famille? Je le sais pas. Là.
Dans toutes les professions.
Moi, ma vision, c'est pour quelques minutes de mon temps, ça va changer l'évolution de quelqu'un. Oui, ça va, je vais le faire.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de mal réagir par rapport à un témoignage? OK, ben raconte.
Ben moi, ça m'arrive déjà le fait que j'ai un enfant qui est différent. Si j'ai un parent d'enfant différent, moi, c'est un miroir. Fait qu'il faut que je travaille à rester neutre.
Tu deviens trop émotif?
Oui.
OK.
Oui, ça a déjà arrivé que j'avais une personne, son enfant avait la trisomie 21, je crois. C'était pas comme de l'autisme, mais quand même dans la même lignée.
C'est venu te chercher.
Puis là, pendant la rencontre, à un moment donné, elle vient d'avoir le diagnostic de son enfant. Puis là, moi, je suis dans le mien, là. Je suis dans mon histoire. Fait que ça arrive.
Mais en même temps, puis c'est peut-être une sous-question sur cette réflexion-là, les gens qui vont consulter, est-ce qu'ils ont besoin de cette empathie-là? Est-ce qu'ils ont besoin de voir de l'émotion? Ben, vous gardez un genre de poker face.
On nous entraîne à être neutre.
OK.
OK, ça, c'est un entraînement.
C'est mais intéressant,
moi,
tu
peux m'entraîner au tennis à bien jouer. Ça se peut qu'une journée, je joue moins bien. Mais ça se peut qu'une journée, je suis plus dans mes émotions. Puis que cette journée-là, il arrive quelque chose qui fait qu'un patient va venir me toucher. Ce n'est pas grave. On est des êtres humains. Que le patient voit qu'il y a une émotion, c'est pas grave.
Mais au contraire, moi, je trouve que c'est là que ça,
c'est humain,
ça permet de connecter davantage avec la personne.
Puis, avant, j'en parlais pas, mais maintenant que c'est plus public, j'ai des patients maintenant qui m'abordent, hey, j'ai entendu votre entrevue à Boulevard, tu sais. Je sais ce que vous vivez maintenant. Ou ils ont vu sur TikTok, un TikTok là-dessus. Fait que là, c'est sûr que j'aborde ça dans mon bureau maintenant.
Okay. Fait que,
c'est comme l'équilibre. Je peux parler un peu de ça. Je suis un être humain qui vit des choses, mais je ne passerai pas l'entrevue à dire Caroline Gagnon, c'est quoi sa vie, là? Tu sais, ça ne sera pas ça, l'entrevue, là. Mais pour quelques minutes, oui.
Ouais. Parce que dans le fond, c'est ça, il y a un intervieweur et un interviewé, il ne faut pas que ça
vire d'abord. C'est comme toi, Denis,
bord.
Si je te pose plein de questions pendant ma chronique, tu vas dire, Mané, Caro, c'est ta chronique, tu sais, je veux dire, on ne peut pas inverser les rôles.
Ben, en fait, si tu commences à me poser trop de questions, je vais avoir peur que tu me charges. Là.
Je te diagnostique aussi.
C'est ça.
Mais je pense qu'on
est assez transparent en onde, tu dois déjà avoir réglé 2-3 diagnostics autour de ce tableau.
Tout est réglé, je sais tout pendant ce...
Est-ce que ça arrive que comme professionnel, tu sois plus dans l'accueil de simplement écouter, puis d'être dans le neutre, puis que tu te permettes, quand il y a quelque chose qui n'a pas de bon sens, de le dire, puis de réagir. Je vais dire brasser la personne, là. Je pense qu'on se comprend.
On a chacun nos styles de psychothérapeute. Moi, je suis un style contemplatif, humain, à l'écoute. Fait que moi, ma tendance, c'est d'être à l'écoute. Mais c'est sûr, je vais réagir. Je suis un être humain qui réagit, mais pas tant que ça en entrevue parce que je me conditionne pendant... Moi, je suis plus vive d'esprit à l'extérieur du bureau ou dans ma vie, je suis un peu éclatée. Mais quand j'arrive dans mon bureau, on dirait que c'est comme... Je suis comme entraînée à être comme ça. Mais c'est sûr que je peux réagir des fois. Mais j'ai des collègues qui sont beaucoup confrontants. Dès la première rencontre, « Ah, monsieur, vous buvez 12 bières par jour. Ouais, c'est beaucoup pour votre cerveau, ça. » Tu sais, moi, je dirais jamais ça.
Ah ouais, même si c'est une évidence.
C'est une évidence, on regarde ça.
OK.
T'attends de créer une relation.
Oui, j'attends d'avoir une alliance.
Puis il y en a qui ont besoin de se faire brasser, puis il y en a d'autres qui ont besoin que tu les prennes tranquillement.
Exactement.
Aussi. C'est comme votre job de deviner qui a besoin de quoi.
Puis c'est là que le match est bon quand on dit bien matcher avec un... Moi, je suis un psy qui ne va pas confronter comme ça. Mm-hmm. Fait qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui ont besoin de se faire brasser à la cage. Je ne suis pas la psy pour eux. Comprenez-vous? Fait que ça dépend de nos styles, nos personnalités.
Il y a un auditeur qui dit « Salut, est-ce que je devrais consulter un psy afin de comprendre et aider ma conjointe qui a commencé à avoir un psy? »
Dans le fond, c'est très bon.
C'est bon comme
cette
question,
question-là est excellente. Là. Quand dans le couple, un des deux commence une psychothérapie, ça fait des changements chez les deux personnes. Mm-hmm. Parce que si moi, je m'en vais rechercher de l'aide, puis là, la personne revient dans le couple, c'est sûr qu'il se passe de quoi. Et parfois, il y a un soutien qui est nécessaire pour l'autre. Ça dépend du diagnostic aussi. S'il y a un nouveau diagnostic qui est psychiatrique, je pense à une maladie bipolaire, une dépression majeure, tu sais, des choses comme ça qui sont diagnostiquées chez la conjointe de la personne qui nous écrit, bien, c'est sûr qu'il va peut-être avoir besoin de soutien. On a la boussole à Québec, il y a un organisme pour ça, pour aider les familles, les soutenir. Fait que moi, je réfère beaucoup à la boussole, les conjoints, les familles de patients qui ont des diagnostics.
Est-ce que c'est sain quand une personne d'un couple va consulter un psy et que l'autre personne du couple va dire « Bien, j'aimerais ça, moi, parler à la même psy des problèmes » ou... Ça peut-tu devenir pas incestueux, là, mais je pense
très
que tu comprends où je veux en venir?
J'ai des patients que je suis depuis un bout, puis ils me disent « Je peux-tu amener mon mari à la prochaine session? » Malheureusement, je suis biaisée, je suis avec vous dans le suivi.
Ouais.
Je ne serais pas bonne pour... le couple.
Okay.
Si je commence en couple, oui, parce que là, je travaille avec le couple.
Mm-hmm.
Mais là, c'est comme si je travaille avec Denis depuis des années. Vous autres, vous arrivez, ça, tu sais, comme ça va être comme, ah, oh, là, on
t'en
travaille quelque chose.
Beaucoup, là,
j'en connais déjà beaucoup. Puis je ne vais pas écouter comme il faut Audrey si elle me parle de quelque chose ou Véro, parce que je vais être biaisée, je vais soutenir Denis depuis des années. Donc, c'est ça le problème. Donc, c'est si, oui, on peut donner une rencontre d'information, mais on prend tellement la part de notre patient qu'on a un biais.
OK.
Qui est là.
Caro, j'ai peut-être regardé trop d'émissions puis trop de films, mais est-ce qu'on t'a déjà confessé des crimes?
Une fois.
Une fois?
Oui, un meurtrier.
Wow!
Qu'est-ce
que tu fais dans ce temps-là? Ouais. Je m'attendais pas à ça. Je suis comme.
Je sais.
Tu peux pas rien dire.
Puis moi, j'ai pas vu les questions en passant. Là. Les
gens qui écoutent, je
ne connais pas les questions que vous allez me poser. Fait que je vous dis vraiment. Ouais, j'ai
un meurtre?
Oui, quelqu'un qui venait de faire un meurtre sur la rue Cartier.
Qu'est-ce que tu fais avec ça dans ce temps-là? T'appelles la police?
En fait, moi, ce que j'avais à faire à l'urgence, c'est identifier s'il était en psychose ou non.
Okay.
Pour savoir s'il pouvait aller passer les étapes avant d'aller en procès. C'est très long. Là.
Mm-hmm.
Il faut identifier si le patient était en situation, est-ce qu'il était malade ou non au moment du meurtre. Mm-hmm. Fallait que je statue là-dessus assez rapidement.
Okay.
Donc, j'étais escortée de deux agents de sécurité.
Fait qu'eux savaient qu'il y avait un meurtre qui avait été commis, mais ils ne savaient pas l'état d'esprit.
Okay. Ils arrivent avec le suspect, puis ils disent, ben, docteur Gagnon, est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'on peut faire toutes les démarches juridiques ou il faut aller à l'institut
en psychiatrique?
C'est ça qu'on appelle travailler sous pression?
Ah oui. J'avais 27 ans.
Allez, hey, tabarnouche!
J'étais en formation. Je me rappelle encore d'être avec les deux agents de sécurité, puis je me sentais... J'étais pas comme autant en confiance qu'aujourd'hui, mettons. Fait que je m'étais dit, bon, ben, je fais mon évaluation. Est-ce qu'il est bipolaire? Est-ce qu'il est schizophrène? Tu sais, je fais toutes mes affaires.
Est-ce que ce qui est arrivé par la suite, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais est-ce que ça a donné raison au diagnostic que tu avais donné?
Oui.
Ah ouais.
Oui. Oui, mais c'était impressionnant pour moi, parce qu'il y a des gens qui travaillent en médico-légal. Moi, je suis devenue pédopsychiatre, là, mais dans ma formation, on fait un peu de tout. Et je n'avais jamais été en présence de quelqu'un qui venait de commettre un crime dans les dernières heures. Le crime, il y avait encore du sang sur les mains, en quelque part. Là. C'est une image, mais c'était ça pareil. Là. Ça venait d'arriver, là, genre à l'heure du midi, puis on était 5 heures le soir, puis j'avais la personne devant moi. Donc, c'était impressionnant. Je me sentais un peu comme dans un film... Clarisse, la psychiatre.
Ah oui.
Moi, c'était une de mes
idoles.
Uh-huh.
C'est
pas pour rien que je suis psychiatre. Hein, ça, j'ai aimé ça, le silence des agneaux.
Situation hypothétique, là, c'est quoi les limites, en fait, du secret professionnel? Parce que là, bon, il y a un meurtre qui avait été commis, c'était clair.
Oui,
on te demandait ton aide, mais je veux dire, t'as un patient qui te confie quelque chose d'épouvantable demain matin. C'est quoi les limites du secret professionnel?
Les limites, c'est si un patient me confie un plan hétéro-agressif. Ça veut
dire, ça n'a pas été fait encore.
Je vais mettre une bombe à tel endroit et voici.
C'est une intention.
Intention et un plan clair, je dois aviser. Je dois aviser la DPJ si un patient m'avoue un crime contre un enfant ou un adolescent. Je peux lever le secret professionnel. Donc, dès qu'il y a apparence de crime qui est arrivé, qui est avoué dans mon bureau, moi, je ne peux pas vivre avec ça. Je n'écrirai pas ça dans ma note. Le patient a touché sa fille hier. Donc, je vais tout de suite tout de suite agir.
Ah, je suis certaine que tu pouvais pas.
Non, je
peux. C'est bon. Hein?
Pour la protection des enfants, des ados et la population, souvent, si on a des patients qui sont en furie contre le système, ça peut être leur bureau, ça peut être...
Dès qu'il y a un risque, finalement.
Ils sont fâchés, ils sont en arrêt de travail, puis ils en veulent à leur patron.
Ça peut pas revenir contre toi, c'est sûr, sûr, sûr.
Ça pourrait revenir contre moi, mais moi, je suis à l'aise de dire au juge, écoutez, monsieur le juge, je veux éviter un crime d'envie. Vous ne me mettrez pas en prison parce que moi, j'ai trop agi. Non, c'est comme, ça. Tu roules trop
c'est
bien
parce que
sur passe l'autoroute
de quoi,
Caroline, hein? On va t'arrêter. Non. Ouais. Mais je vais l'expliquer au juge. Je suis prête à... Moi, je fais une action comme psychiatre avec la justice si je suis sûre que dans ma... je me vois devant le juge l'expliquer. Comprenez-vous? C'est ça que je vais faire. Je vais le faire.
Je retourne dans mes émissions de TV, dans ma fiction. À une certaine époque, j'écoutais Les Sopranos, puis Tony Soprano, lui, il y a une thérapeute, puis sur plusieurs saisons, à un moment donné, la thérapie, ça devient autre chose. C'est-tu déjà arrivé que tu ailles à imposer tes limites?
Oui.
Parce que des gens qui rentrent dans ton bureau, veut pas,
oui.
Il y en a qui n'ont jamais été écoutés, qui n'ont jamais eu d'attention, puis là, ils se disent « Oh, là, j'ai une femme qui m'écoute. »
Patient amoureux.
Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est déjà arrivé.
Ah oui.
Ouais.
Oui.
Qu'est-ce qu'on fait dans
les gens
ce temps-là?
De mon âge, mettons. Oui.
Ouais.
Des fois, on le sent, on sent comme quelque chose, ou dans la façon de parler. Dans... Bien, il faut qu'on ne peut pas continuer. C'est pas un flirt, là.
Mm-hmm.
Même si c'est pas. On n'est pas là.
Dès que tu sens quelque chose, il faut que tu mettes.
C'est à
le...
moi de mettre le cadre, parce que le patient ne le mettra pas. Le patient. Puis là, même s'il dit, je te poursuivrai pas si, mettons, je sais pas, on va prendre un verre. Je me suis déjà fait dire ça.
Ah, ouais.
Je te poursuivrai jamais, parce que bon, tout ça, une allusion à prendre un verre ou quelque chose. Alors là, on explique le cadre. Puis. C'est à la limite qu'on va arrêter le suivi.
Ouais, Tony Soprano, il s'en était foutu du cadre, lui, de ce que je me souviens. Ouais, parce qu'il y avait des cadres qui avaient tombé, entre autres choses.
Le cadre tombe.
Ouais.
mais c'est important de savoir que ça m'appartient comme responsabilité. C'est pas à vous, les patients. C'est, les patients, ils ont le droit de vivre ce qu'ils ont à vivre. Puis s'ils vivent un sentiment amoureux, on peut regarder ça. Mais à un moment donné, on peut pas travailler si c'est ça.
C'est
qui
sûr.
Est là.
C'est
un travail de neutralité là, qu'il faut.
Il y a quelqu'un qui nous dit par texto, j'ai été diagnostiquée PTSD,
stress post-traumatique,
mm-hmm. Exactement, l'an dernier, suite à des missions où nous avons eu plusieurs contacts. Je suis toujours en attente d'avoir un psychologue, mais ma question est, à quoi peut ressembler un traitement pour ce genre de problème?
Donc, le syndrome de stress post-traumatique, on va vouloir que le patient nous raconte ses traumatismes, mais pas une fois, là. Pas 10 fois, ça peut être 30 fois.
Au point de quoi se désensibiliser?
À force de nous le raconter à chaque fois qu'on se voit. Puis on se désensibilise à dire la souffrance qu'on a eue par rapport à un truc qui a été très difficile, bon, traumatique. Donc, il y a souvent plusieurs expériences traumatiques. Là, c'est quelqu'un qui est de l'armée, qui a été en mission extérieure, c'est ça, Audrey? Bon. Donc, la mission, ça a été quoi? Donc, moi, je ferais décrire au patient son traumatisme, mais fréquemment, avec beaucoup de détails. Et on visiterait ça souvent. Puis, à un moment donné, à force de le décrire, on apprivoise l'idée qu'on a vécu ça, puis on est capable de le mettre un peu à l'écart. Un peu. De notre vie, parce que sinon, il est toujours dans leur
au
tête.
Au lieu que ça revienne constamment.
Au lieu que quand tu vois une auto rouge, ça me rappelle une auto rouge parce que j'ai vécu un traumatisme en lien avec ça.
Puis tu sais, la personne qui écrit a dit qu'elle est très stressée par rapport... Moi, j'ai l'impression que c'est de ça qu'elle a peur, d'être obligée de raconter ses affaires. Puis là, si tu lui dis, faut qu'il raconte 30 fois,
mais,
j'ai l'impression que sa réaction, c'est « Oh, moi, j'irai
donc,
pas là, là. »
Je veux juste modérer ce que je viens de dire. On va nuancer. C'est qu'avec beaucoup d'empathie et de douceur, moi, je ferais pas ça comme premier rendez-vous, mais...
Tu sors pas des bras non plus.
Là. Non. Tu sais, on va y aller doucement. Puis si elle veut me raconter la chose la première fois, puis on écoute, puis après, on prend le temps, là. Mais ce que je veux dire, c'est après un ou deux ans de suivi, ça se peut que tu l'aies dit 30 fois la même histoire, c'est pas grave. C'est correct.
Ouais.
C'est correct de le raconter à nouveau. Mais on prend le temps selon le rythme du patient. Donc, pas de stress avec le fait en thérapie, c'est pour traiter le stress. On n'a pas à se stresser là-dessus.
Caro, il y a beaucoup de bonnes questions. Il va falloir reprendre.
On va reprendre
le
la
temps.
Formule.
C'est
hein?
sûr, j'aime ça au
c'est
bout.
C'est le fun, j'aime
pour
ça.
Pour vrai, je trouve ça vraiment intéressant.
Je à la personne qui nous a écrit sur le choc post-traumatique. Là. C'est vrai, je suis passée par là, moi aussi. C'est un coup à donner qui fait du bien par après.
Ah, c'est bon. C'est
la personne le stress.
Bon. La libération arrive après le dévoilement.
C'est un coup à donner.
Exactement.
Hey, merci, Caro.
Ça fait plaisir.
Caroline Gagnon, psychiatre que vous pouvez suivre sur tous les médias sociaux modernes, là, parce qu'elle est rendue full présente, full active, full partout.
À cause de vous autres.
Puis nous autres, on la garde.
Okay.
Il est 5h moins 5 à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel.